H comme histoire, c'est l'idée de faire un sort à la critique traditionnelle adressée au marxisme comme théorie eschatologique, le fameux matérialisme historique, les conditions dans lesquelles se développe une société déterminée, devant conduire inéluctablement à la destruction de la société bourgeoise et à l'avènement du communisme. Ce reproche adressé au schéma marxiste d'analyse du capitalisme est-il fondé ? Quelle fut la conception de l'histoire de Marx ?
Oui, la notion d'histoire est un élément déterminant pour comprendre le marxisme, c'est-à-dire pour saisir son originalité et le caractère que Marx et Engels considéraient comme scientifique, dans l'expression justement de matérialisme historique. Et je précise tout de suite qu'il n'y a aucune nécessité de faire la distinction qui a été si longtemps mise en avant par les partis communistes, et très exactement par la théorie stalinienne, entre matérialisme historique et matérialisme dialectique. Il n'y a pas deux disciplines, il y en a une, le matérialisme historique, qui est naturellement dialectique, tout simplement parce que le matérialisme historique est l'examen, la prise en considération des contradictions qui se produisent dans l'histoire, c'est-à-dire dans la pratique humaine. Alors on dit souvent que Marx et Engels ont fait de l'histoire une science. C'est vrai, et dès l'idéologie allemande, c'est-à-dire dès leur travail qui peut être considéré encore comme un travail de jeunesse, il déclarait, nous ne connaissons qu'une seule science, la science de l'histoire. C'est cette leçon qu'Althusser, par exemple, retiendra lorsqu'il dira que le marxisme a ouvert le continent histoire. Quelle importance ça a et quelle signification ? Moi, j'avais l'habitude, devant les étudiants, en présentant ces questions-là, de le faire comprendre en disant que, de même que la nature a une histoire, et ça, c'est ce qu'a découvert Darwin, la théorie de l'évolution, de même, l'histoire a une nature qui est l'économie. Quand on dit que la nature a une histoire, ça signifie effectivement que les espèces n'ont pas été données une fois pour toutes, telles qu'elles sont sorties de l'arche de Noé, mais qu'au contraire, elles ont évolué, et que ce processus d'évolution a duré jusqu'à nous et durera naturellement après nous. Or, de même, l'histoire a une nature, quelque chose, une base sur laquelle elle s'exerce, c'est l'économie. C'est-à-dire les rapports que les hommes entretiennent entre eux. Donc une analyse des sociétés qui s'impose. Et cette analyse va avancer un certain nombre de concepts, notamment peut-être le plus connu, celui des luttes de classe. Savoir que l'histoire n'est pas du tout un fleuve tranquille. L'histoire, c'est quelque chose qui se déroule à travers des contradictions, sur des contradictions, qui font que les sociétés humaines ont un devenir, qu'elles ne sont pas figées elles non plus, et surtout qu'elles ne fonctionnent pas du tout à l'harmonie ou un consensus. Il faut bien voir que c'est le conflit qui est la règle dans les sociétés humaines, en entendant que par conflit, quelque chose qui n'est pas nécessairement péjoratif, qui est au contraire un mouvement, qui est un devenir. Et toutes ces expressions-là sont souvent utilisées comme synonymes. Cela dit, quand l'histoire est conçue comme un procès d'autocréation de l'homme, quand elle est conçue de la sorte, cette conception brise avec les conceptions anciennes pour lesquelles l'histoire se confondait avec le récit. Alors, ces récits pouvaient être plus ou moins élaborés. On avait toute l'historiographie, par exemple, médiévale ou antique, l'historiographie qui consistait à rapporter des événements et à faire éventuellement, de la part de ceux qu'on appelait les chroniqueurs, la geste des princes, la geste des rois. C'était ça, l'histoire. Ou alors, on considérait qu'il y avait plusieurs histoires qui pouvaient recevoir le nom d'histoire. Alors on parlait d'histoire des idées, d'histoire de l'art, d'histoire du droit, etc. Alors tout ça, naturellement, avait un sens du point de vue de l'information, mais pas du tout d'une recherche qui se prétendrait scientifique. Pour une raison tout à fait simple, c'est que si les choses se passaient ainsi, alors ça signifiait que les idées menaient le monde et non pas les contradictions réelles, celles qui venaient des luttes de classe. Ce qui entraîne comme conséquence, si on voit dans l'histoire une science qui repose sur la pratique humaine, ça signifie que toutes les formes, toutes les expressions de la pratique humaine sont passibles d'une explication historique. Ça veut donc dire que ce qu'on appelle les idées, et plus généralement le monde de la culture, obéit à des déterminations qui ne lui sont pas inhérentes, qui viennent de l'économie. Alors ici, on a affaire à des difficultés, parce que une des grandes critiques fondées d'ailleurs qui a été adressée au marxisme, ça a été de dire ben, le marxisme aplatit tout sur l'économie et voit le rôle de l'économie partout, y compris dans les littératures. Alors Balzac s'expliquerait par l'économie de son temps, etc., etc. Telle découverte scientifique serait déterminée par l'état des techniques à un moment donné. Cette conception qu'on a appelé l'économisme, l'économicisme, c'est une conception qui, malheureusement, s'est imposée très vite dans le mouvement ouvrier, où on a eu tendance à réduire sur ce qu'on appelait la base tout le domaine structurel qui est celui des idées, qui est celui de la culture, de l'art, de l'idéologie en général, était aplati et dissous dans la base, la détermination économique. Et les choses étaient telles que Engels, à la fin de sa vie, après la mort de Marx, a été obligé de préciser ce que le marxisme entendait par détermination de dernière instance. La dernière instance, c'est une expression sur laquelle Engels a insisté, la dernière instance était effectivement l'instance économique, mais l'instance économique pouvait, comme on le voit de la part d'un metteur en scène, mettre en première ligne des acteurs qui n'étaient pas nécessairement économiques. Althusser a particulièrement creusé cette question. Il arrive à un moment donné que la détermination passe par des enjeux qui sont philosophiques. Alors naturellement, c'est l'économie qui tire les ficelles, si l'on peut dire, derrière. Mais le rôle actif, c'est le rôle de la bataille des idées philosophiques, comme ça a existé lorsque Lénine a écrit « Matérialisme et empirocriticisme » dans les années 10, 12, 13 du siècle dernier. Et alors ça, c'est extrêmement important parce que derrière tout ça, on découvre la fameuse problématique base-superstructure. La problématique base-superstructure, il faut bien la comprendre, elle n'est pas du tout mécaniste. Elle veut dire que chaque fois la détermination économique doit servir de repère, mais que naturellement, ça ne signifie pas que les sphères qu'on appelle superstructurelles ou idéologiques ne puissent pas jouer un rôle déterminant et même jouer un rôle de causalité. Un peu comme s'il y avait, ce que j'ai dit il y a un instant, une sorte délégation de pouvoir. Alors ça, naturellement, c'est une problématique qui a donné lieu à une littérature qu'on ne peut même pas recenser, qui est tout à fait considérable, sur laquelle il faudrait insister. Mais il faut savoir que le matérialisme historique en tant que tel jette là-dessus un éclairage qui n'est pas celui de la réduction économiciste. La réduction économiciste a été en quelque sorte une maladie infantile du marxisme qui était due au fait que la manière dont il était compris était une manière pauvre. C'est une manière pauvre. Il faut se souvenir que lorsque paraît le capital est à peine lu par les dirigeants de l'Association internationale des travailleurs, au point que Engels et d'autres seront obligés de se faire en quelque sorte des instituteurs de cet énorme matériau et que les dirigeants du mouvement ouvrier ne retiendront que précisément la détermination économique parce que intellectuellement ça les arrangeait, c'était facile. Alors, une dernière précision qu'on peut apporter aussi, c'est quand vous avez évoqué l'eschatologie, c'est vrai qu'on a vu dans le marxisme, qui considère que le capitalisme est appelé à engendrer son contraire, c'est-à-dire une société socialiste, engendrer le communisme, on a vu là-dedans une attitude, disons finalement, religieuse, où le salut serait au bout de la route, une espèce de rédemption, etc. Bon, laissons ça de côté. Ce qu'on constate, au contraire, c'est que le communisme, en tant que tel, est effectivement une tendance du capitalisme. Le capital indique effectivement que le communisme peut être le débouché des luttes des travailleurs. Mais en même temps, Marx s'est bien gardé de dire qu'il y avait une nécessité interne qui conduirait à cette fin. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis souvent que dans les tendances du capital, il y a la tendance rouge, c'est le communisme, mais il y a la tendance noire, la tendance grise, la tendance rose, la tendance blanche, et que chacune de ces tendances est illustrée par des formes politiques. Voilà un premier point. Le deuxième et dernier point, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a des lois dans l'histoire, comme il y a des lois dans la science, comme il y a des lois dans la physique, par exemple. Mais il n'y a pas de loi de l'histoire. Il n'y a pas de loi de l'histoire comme si l'histoire obéissait à un plan déterminé, comme si l'histoire était conduite par une providence qui mettrait en scène différents éléments et qui conduirait à une finalité qui reste à déterminer. Non. L'histoire permet de dégager des lois, oui, comme la loi des modes de production, par exemple, la succession des modes de production, comme la relation de la culture à ses conditions de création, mais il n'y a pas de loi de l'histoire au sens eschatologique.